Muy bien, estamos con Philippe Claudel, director de Hace mucho que te quiero. Es, en primer lugar, queríamos preguntar, es la primera película, pero tú ya tienes una trayectoria como escritor. ¿Cuándo comenzó el deseo de hacer cine? Porque ya venía de tus épocas de estudiante, ¿no? ¿Cuándo pensaste, yo tengo que hacer una película?
Moi j'ai toujours été.
¿Quieres que tú la hagas simultáneo?
Moi j'ai toujours été fasciné par les images, donc faire des images. Alors soit les faire naître avec des mots, soit les faire naître avec des couleurs ou avec de la pellicule, photo ou cinéma, et ça m'a toujours passionné. Quand je faisais des études donc de littérature et de cinéma, on faisait des petits courts-métrages avec des copains étudiants. Et on apprenait qu'en fait, à la fois à essayer de filmer, on jouait aussi, on montait, on éclairait, on faisait un peu tous les postes. Et ça donnait des films qui étaient médiocres, sans intérêt, mais l'aventure était passionnante, quoi. Et à l'époque, j'avais essayé de faire déjà des scénarios de longs métrages que j'avais soumis à des professionnels, mais ils avaient trouvé ça trop noir, trop... Puis sans doute c'était très mauvais, hein, surtout. Ils étaient sans doute peut-être polis avec moi, mais c'était sans doute très mauvais. Et puis, je me suis davantage orienté vers l'écriture. Et c'est le cinéma qui est revenu me chercher il y a une dizaine d'années. Quand j'ai publié mon premier roman, il y a un metteur en scène qui est devenu un ami, Evangelo, que j'avais rencontré dans une émission, qui m'a demandé d'écrire avec lui. Et puis il m'a fait connaître d'autres metteurs en scène, des producteurs, et qui eux-mêmes m'ont commandé des sujets ou des consultations. Et voilà comment je suis revenu dans le milieu du cinéma et comment le désir de refaire des films de façon plus professionnelle est apparu.
Bueno, se puede pintar, o sea, se puede escribir a través de muchas formas, con la pluma, las palabras, el color, ¿no? Pintando, la fotografía, o sea, la iluminación, todo eso son formas de comunicar lo que uno quiere decir. El cine, bueno, el cine, yo empecé en realidad, estudié literatura y cine, ¿no? Y cuando estaba en la escuela de cine, con la universidad, pues con los compañeros de clase hacíamos pequeños cortometrajes que no tenían ningún interés, desde luego. Pero era la aventura, era hacer cine, era catar lo que significa hacer cine. También luego empecé, en el mismo tiempo, escribí unos cuantos guiones, pero no tuvieron ningún éxito, no los conseguí vender. O sea, igual es que eran muy malos, pero como eran la gente educada, los productores no me lo quisieron decir, ¿no? Pero quizá fueran muy malos, que eran muy negros, muy tenebrosos, ¿no? Bien. Y hace 10 años o algo así, tengo un amigo que se llama Evangelo. Yves Angelo, que es productor y director de cine, conmigo, y fue él que me volvió a meter. O sea, digamos que el cine me vino a buscar otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues me empecé a escribir guiones, a hacer consultas, o sea, productores me consultaron para asesorar guiones, cosas así, y poco a poco volví a meterme en el cine, y aquí está la cosa.
Viendo la película, me da la impresión de que no es, por lo menos se agradece que no es excesivamente literaria, digamos, que no se nota tanto que viene de un escritor. Entonces, la pregunta es, a la hora de escribir el guión, ya ibas pensando todo lo que se ve de cuidado de fotografía, de vestuario, de música, o fue primero escribir el guión y luego pasar a reflexionar sobre cómo lo ibas a poner en imágenes?
No, c'est pour ça que c'est devenu un film, c'est que ça a été pensé immédiatement comme un film. Et c'est pour ça que je disais dans la conférence de presse que je sais quand une idée va être plutôt un roman, plutôt un film, parce que c'est une question de visualisation et de moyens. Cette histoire, je l'ai tout de suite imaginée avec les moyens du cinéma, avec les comédiens, avec le décor, avec la lumière, avec la caméra, le cadre, etc. Et ça a été pensé pour ça. C'est pour ça que j'aurais été incapable d'en faire un roman, je serais incapable d'en faire un roman. Et c'est pour ça aussi qu'à l'inverse, quand on me demande d'adapter un des textes que j'ai écrits, je trouve la question parfois au début un peu étrange, parce que c'est, pour moi, le texte il a été écrit comme un roman parce que ça devait être un roman. Et pourquoi il faudrait en faire un film? Donc c'est non, là il n'y a pas eu de transfert, c'était immédiatement un film dans ma tête.
Non, para nada, o sea, desde el primer momento lo concebí como película, O sea, escribí un guion para una película. En ningún momento pensé esto puede ser una novela. Era una película desde el momento que me vino la idea. O sea, pensé en los actores, en la cámara, en la luz, en absolutamente todo, incluso en los decorados. O sea, todo estaba construido para hacer una película. Por eso también cuando me piden que adapte mis novelas al cine, me extraña siempre un poco, pienso, bueno, si esto lo concebí como novela, ¿por qué ahora debo concebirlo como película? Si no ha nacido esto para una película, ¿no? No tengo más muy claro qué debe ser, o sea, cuando nace un proyecto en mi mente, sé perfectamente si va a ser cine o literatura.
Y el reparto, la elección de los actores, porque la interpretación de todos me parece que está a muy, muy, muy buen nivel. ¿Cómo fue la elección de todos los actores?
Mais ça, je trouve que c'est un moment passionnant du travail, cette préparation, le casting. C'est vraiment... Alors, il y avait un rôle que j'avais écrit pour une comédienne, c'est le rôle de Léa, interprétée par Elsa Zilberstein, parce qu'Elsa, je la connais, c'est une copine, et j'avais envie de travailler avec elle, et donc le rôle, il a vraiment été écrit pour elle, donc là, ça c'était clair. Ensuite, Christine, je me suis posé la question qui pouvait faire ce personnage-là. Et j'ai pensé à elle assez tôt. Et je ne sais pas pourquoi mes producteurs avaient peur qu'elle refuse. Donc ils m'ont dit, mais il faudrait peut-être d'autres pistes. Et puis à un moment, je suis revenu à la charge. Je dis, on va lui proposer, on verra bien. Quoi. Et en fait, elle a accepté tout de suite. Ensuite, après, pour les autres personnages... C'était comme un jeu de cartes, c'est-à-dire que j'avais déjà mes deux cartes, une carte Christine, une carte Elsa, et après je choisissais des cartes et je voyais si tout cela s'harmonisait. Parce qu'il y a des comédiens qui étaient très bons que j'ai pas pris, que j'avais vu en casting, mais je les ai pas pris parce que j'arrivais pas à faire les couples. Je voulais quelque chose de réaliste, je voulais qu'on ait l'impression vraiment que ces gens-là vivent ensemble et que ça s'harmonise bien. Par exemple, j'ai pris beaucoup de temps à trouver les comédiens qui jouent dans le repas à la campagne, le dîner entre amis. Là. C'est pas des gros rôles, mais j'ai vu vraiment des dizaines et des dizaines de personnes parce que je voulais que ça donne un repas d'amis crédible. Et il y a même des gens qui m'ont dit, mais ça c'est des vrais copains, ça. Et ça, ça m'a fait plaisir, donc ça voulait dire que ça fonctionnait.
Bueno, al escribir el guion, desde luego para mí es el momento más apasionante, me parece un momento, no el más, pero apasionante, o sea, buscar el reparto, ¿no? Buscar los actores, lo que es el casting, me parece apasionante. Es verdad que al escribir el guion ya tenía una actriz, un papel con una actriz en mente, el de Lea, o sea, que lo interpreta Elsa Silverstein, ¿no? Sí. Es amiga mía, es amiga nuestra, entonces desde un principio yo quería trabajar con ella, eso es algo que tenía en mente y estaba decidido. Juliette, pensé en Christine Scott Thomas, lo dije a los productores, pero ellos tenían miedo de que no aceptara, no sé muy bien por qué. Pero me dijeron, bueno, vamos, haz otras proposiciones, pero volví a la carga. Y efectivamente, cuando se lo propusimos, aceptó inmediatamente. Y luego... Los otros actores, bueno, es como un poco como un juego de cartas, ¿no? Yo tengo dos cartas, tengo la carta de Lea y de Elsa y de Christine ya en la mesa, ¿no? Y entonces luego tengo una baraja y esa baraja debe encajar con las dos cartas. Entonces, hice un casting, bueno, vi a muchos actores que a lo mejor eran más conocidos, muy buenos, ¿no? Que los que he escogido, pero me parecía que no encajaban exactamente, que no armonizaban con estas dos cartas principales. Entonces preferí escoger otros. Y curiosamente, una de las dificultades, quizás no mayores, pero donde tuve dificultad en armonizar todos los actores, es la famosa cena en el campo. Son papeles muy pequeños, es un momento de la película, ¿no? Pero quería de verdad que fuera una cena entre amigos, que uno sintiese, que comunicase al espectador una cena entre amigos. Y no fue fácil encontrar a toda la gente para que estuviera bien junta. De hecho, hay un espectador que me dijo una vez, pero son amigos de verdad toda esta gente, ¿no? Está claro. Eso me gustó mucho. Y ahí me sentí muy feliz.
Una cuestión que llama mucho la atención, por lo menos a mí me ha gustado mucho cómo va incluso evolucionando a lo largo de la película, es la música. Leida, además, que es un amigo tuyo, ¿cómo fue el proceso de componer la música para la película?
Alors, la musique, elle a été faite par Jean-Louis Aubert, qui est un chanteur très connu en France, que je connais depuis quelques années, qui est un ami et que j'aime beaucoup. Et il n'avait jamais travaillé pour le cinéma. Et moi, j'avais envie de... C'est quelqu'un qui a une grande sensibilité et qui aime beaucoup les autres. Et je me disais que cette histoire pouvait l'intéresser. Donc, on a travaillé de façon un peu bizarre, parce que Jean-Louis Aubert préparait une grande tournée et il ne pouvait pas enregistrer la musique après que le film était monté. Donc on a travaillé un peu à l'envers, quoi. Si. Je l'ai invité sur le tournage pour qu'il s'imprègne un peu de l'ambiance. Je lui ai donné à peu près à mi-tournage 25 minutes de scène, comme ça. C'était même pas monté, c'était des... Et il s'est enfermé 5-6 jours en studio. Et moi, je lui avais demandé d'explorer différentes pistes, dont une chanson qu'il avait déjà composée quelques années plus tôt, que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Alter Ego. Et je lui ai demandé de faire des variations autour de ce thème. Et puis il y avait d'autres thèmes qu'il a inventés, le thème de la Clairefontaine, la chanson, etc. Et puis quand il est venu sur le tournage, il est venu avec une guitare et il m'a chanté une chanson qui est une chanson de Barbara, une chanteuse française, qu'il a interprétée lui à sa façon. Et ça m'a tellement ému, cette chanson, la façon dont il a chanté sur le plateau, que je me suis dit, cette chanson-là, ce sera la chanson de fin sur le générique. Et voilà. Et puis, il m'a livré à peu près 60 minutes de musique. Et j'ai dû... je trouvais vraiment formidable. Mon drame, c'était que je ne pouvais pas en mettre autant. Donc, il fallait que je choisisse. Et j'ai mis à peu près, je crois, 18 minutes de musique. Et je trouve que ce qui était intéressant dans sa musique, c'était une musique très intérieure. Impressionniste, et qui je trouve convient bien au film.
Si, la musique se llama Jean-Louis Aubert, qui est un cantante muy famoso en Francia, ¿no? Y sí, somos amigos, efectivamente, como has dicho, desde hace años que nos conocemos. Siempre me ha interesado mucho su música y pensé, es fantástico poder ahora tener la posibilidad de ofrecerle esto. Nunca había hecho música para cine antes, o sea, es la primera vez. Entonces, pero lo que pasa es que hubo un problema porque Jean-Louis Aubert se iba de gira, una gira muy importante, y no podía trabajar después de que estuviera montada la película, ni siquiera durante el montaje. Entonces lo hicimos un poco al revés. Yo le invité a venir al rodaje, y a medio rodaje o algo así le di unos 25 minutos, pero no montados, bueno, semi-montados, vamos a ponerlo, para que él pudiera trabajar. Luego hay una canción compuso hace tiempo, que a mí me gusta mucho. ¿Cómo se llama como la chanson?
Ça y est, j'ai un trou. Oh, merde. Dis quand reviendras-tu.
Oui. Dime cuando volverás. Dis quand reviendras-tu. Una película, una canción. Ça, celle de Barbara. Non, l'autre. Non, celle de Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert.
Alter Ego.
Alter Ego, voilà. Alter Ego. Y ça, es un tema que me gustaba muchísimo. Entonces le pedí que hiciera variaciones de Alter Ego, ¿no? Entonces, un momento dado vino al rodaje, bueno, unas varias veces que vino al rodaje, y llegó con una guitarra, y allí me cantó la que decíamos, Di quand reviendras-tu, dime cuando volverás, que es una canción de Barbara, conocida en Francia, pero es una versión suya. Y me emocioné tanto al ver esta canción que dije, muy bien, esta es la de finales de crédito, o sea, créditos finales, perdón. Luego me entregó, se encerró unos 5 días en un estudio y compuso unos 60 minutos de música. Me lo entregó, todo era maravilloso. Y la gran desgracia es que yo no podía usar 60 minutos, a mí me cabían 60 minutos. Entonces acabé escogiendo unos 18 minutos, pero claro, he dejado en el tintero maravillas.
Has dicho en la rueda de...
Es una música también muy impresionista.
Ah,
exacto.
Ha dicho en la rueda de prensa que también tocas la guitarra. ¿No pensaste en llegar a tocar la música tú también para la película?
No, il vaut mieux pas, ouais. Ce serait trop terrible pour le public.
Mejor no, sería terrible para el público.
Lo que sí se ve en la película es toda esta, entiendo yo que... todo este gusto que tienes por el arte, tanto pintura como la música, digamos, que sirve incluso para acercar a la hermana que viene perdida, como la pintura, ¿qué papel tendría para ti el arte un poco en la vida? Porque la película a veces sirve como para curar, para dar compañía. ¿Cuál sería el papel del arte en general, que creo que se aprecia mucho en la película?
El rol del arte en general.
Oui. Dans la vie. On voit, non, pas dans la vie. on voit dans le film,
que
tu donnes une grande importance à l'art en général. Est-ce que tu penses, quel serait le rôle de l'art en général dans la vie? Est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça...
Oui, mais je pense, le film effectivement c'est un film un peu militant sur ce plan-là, parce que on voit des gens qui lisent par exemple. Hein, on dit qu'aujourd'hui le livre c'est difficile de... On voit les petites filles lisent, où elles apprennent à lire, le grand-père lit. On a une famille, une maison, il y a beaucoup de livres. Ensuite on voit un musée, une femme qui s'arrête devant des tableaux et soudain qui regarde un tableau et ce tableau lui parle d'elle, quoi. Et après il y a Michel qui remonte un autre tableau et il lui dit que ce tableau finalement il a des échos avec sa vie. Et je crois que voilà, le film, il essaie de montrer comment l'art peut rentrer dans nos vies. Et il peut y rentrer de façon très simple, quoi. C'est pas quelque chose d'intellectuel. Pour moi, l'art, c'est de l'émotion avant toute chose. Et l'art, il se prête à des discours intellectuels, mais c'est pas du tout quelque chose d'intellectuel. C'est quelque chose de charnel, c'est quelque chose de sensitif, c'est quelque chose d'humain. Et je trouve que une vie, on peut très bien vivre sans l'art. Mais je pense qu'on vit beaucoup moins bien. Si on ne lit pas de livres, si on ne va pas au cinéma, au théâtre, si on ne regarde pas des peintures, on arrive à vivre. Mais on perd une dimension très importante de la vie. Et on perd aussi des questions et des débuts de réponses à des questions qu'on se pose.
Sí, desde luego, en este aspecto yo diría que la película es un poco militante, ¿no? Porque en el sentido de que, bueno, es una casa llena de libros. Todo el mundo lee. El abuelo lee. Las niñas leen o aprenden a leer. Todo el mundo lee. Y hay libros por todas partes. O sea, hay un museo. El museo tiene un papel dentro de la película. O sea, ahora bien, a mí me parece que el arte no debe... O sea, el arte puede dar pie a una conversación intelectual, pero el arte de por sí no es una producción quizá intelectual. El arte es más bien una producción carnal.
Charnel,
c'est quoi d'autre, tu avais dit?
Ça joue plus sur les sensations que sur l'intellect.
Si, juega, o sea, toca mucho más las sensaciones que el intelecto. O sea, el arte entra cuando tú lo ves. Por ejemplo, ella va al museo, ve un cuadro que le habla, que obviamente le habla de su vida pasada, de la cárcel. Luego llega Michel y Michel le dice que este cuadro, el retrato, le recuerda a una chica, tal y cual, ¿no? Entonces es una conversación directa con el arte, con el cuadro, ¿no? No es una reflexión intelectual eso. Y a mí me parece eso muy importante. Luego puede dar a una conversación intelectual. Se puede vivir sin arte, desde luego, no hay ningún problema. Se sobrevive sin arte. Pero quizás se viva mejor, o un poco mejor, si uno tiene algo de arte en la vida.
Y una curiosidad, ¿qué piensas de Romer?
Hay una discusión ahí en la reunión que...
En fait, le film n'exprime pas une opinion personnelle, vraiment. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer à propos de quoi ces gens-là pouvaient se passionner ou s'engueuler ou, donc ils auraient pu discuter d'un auteur ou d'un livre ou d'un tableau ou là c'est un cinéaste, quoi. C'est montrer que ces gens voilà, c'est des copains, mais parfois ça peut péter aussi pour ils peuvent se passionner pour un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, quoi, pour défendre un cinéaste qu'ils aiment ou un cinéaste qu'ils aiment moins. Mon avis personnel, il compte pas tellement, quoi. Moi, il y a des films de Romer que j'ai beaucoup aimés, notamment les très anciens, parmi les premiers. Après, j'aime un peu moins.
Bueno, la película no expresa mi opinión personal, ni mucho menos. Sí. No, lo hice sobre todo para mostrar que esta gente, o sea, ese grupo de amigos, pues podían discutir, pero a muerte, sobre un tema que les apasionaba, pero hubieran podido hablar, pues, de un cuadro, de una novela, ¿no? Escogí en ese momento a Romer como hubiera podido escoger a cualquier otro, ¿no? Pero no, repito, no es una expresión personal. De hecho, Romer, las primeras películas de Romer me apasionan, me parecen maravillas. Me gustan algo menos las posteriores, ¿no? Las primeras son auténticas maravillas.
Muy bien, y para finalizar, hay una cuestión que en la rueda de prensa me ha llamado la atención, que decías que para próximas películas no querías grandes presupuestos. ¿En qué medida condiciona eso en el cine la libertad, y en qué medida la libertad como autor, y en qué medida no condiciona como novelista? ¿Qué diferencias has encontrado ahí con lo que es el presupuesto, lo que condiciona como libertad a la hora de hacer una película?
Moi, je pense que quand même la liberté, elle vient d'une absence d'attente ou de pression. On sait très bien quand on fait un film, par exemple, je pense la situation française, des gens qui vont faire un film à 15 millions, à 20 millions d'euros, ils savent très bien que pour que le film marche, il va falloir attirer 3-4 millions de spectateurs, ce qui est énorme. Donc je crois que ça crée beaucoup de stress, beaucoup de problèmes, d'angoisse, de... voilà, comment arriver à ça, et du coup on perd une sorte de liberté de création. Plus le budget est petit, alors il ne faut pas qu'il soit trop petit non plus, parce qu'on n'arrive plus à faire grand chose, mais quand le budget reste modeste, on n'a pas cette attente, on n'est pas là à se dire, le producteur ou même le metteur en scène, il faut faire tant d'entrées. Donc on fait ce qu'on a dans le ventre, dans le cœur, et puis voilà, puis après on espère que ça va marcher ou pas, mais la surprise est moins, enfin il y a l'attente de la surprise est moins importante quand même. Quand on écrit un roman, c'est encore mieux, parce que ça coûte rien, ça coûte du temps à celui qui l'écrit, mais il y a pas de, et même quand l'éditeur le publie, ça revient pas très cher de publier un roman, c'est quelques milliers d'euros hein, au départ. Si ça marche, il réimprime, mais ça coûte rien. Donc cette espèce de pression de l'argent, on la sent pas du tout, quoi. Et ça, c'est très agréable quand même dans le domaine du roman. Dans le domaine du cinéma, en plus, il y a autre chose, c'est que si vous faites un film qui se plante complètement, par exemple un premier film notamment, vous aurez beaucoup de mal à en faire un deuxième. Hein. Et même un deuxième qui se plante, vous aurez du mal à en faire un troisième. Alors qu'un roman, si l'éditeur y croit en vous, même si vos romans n'ont pas de succès du tout pendant 15-20 ans, il les publie quand même. Voyez. Donc les deux situations... Là, Le cineasta es, quand même, quelqu'un de beaucoup moins libre.
Bueno, está claro que una película de un presupuesto de 15 o 20 millones de euros tiene que hacer 3 o 4 millones de espectadores. Ah. Es una barbaridad. O sea, la presión que eso impone al realizador hace que pierda muchísima libertad. O sea, también es verdad que el presupuesto no puede ser demasiado pequeño. Claro. O sea, tiene que ser una cosa bien. Pero un presupuesto, digamos, equilibrado permite que el realizador saque lo que tiene del corazón, de la tripa. O sea, no se vea, como te diría, encarcelado sí. por la presión de hacer una historia que funcione. Eso por un lado. Sin embargo, la novela es todo lo contrario. La novela cuesta 0 euros. Tú la escribes cuando quieres, en el tiempo que quieras. E incluso publicar una novela no es muy caro tampoco. O sea, una editorial... en una primera publicación va a invitar invertir unos cuantos miles de euros. Si funciona, se vuelve hay una segunda edición. Pero siempre, y luego hay otra cosa, si tú haces una película, primera película, y fracasa, te costará hacer la segunda. Si encima haces dos que fracasan, puedes decir adiós, te despides. Un libro, si el editor cree en ti, si la editorial cree en ti, aguantará 14, 15 años. Tranquilamente publicando tus novelas, pequeñas tiradas, pero te publicarán. Es muy diferente. Hay mucho más libertad en ese aspecto siendo novelista que realizador.
Claro. Muy bien, pues muchas gracias, y enhorabuena por la película.
Sí. Muchas gracias. Gracias. Por decir, muchas gracias.